Vouloir plaire, vouloir séduire, n'est-ce pas un esclavage à la fin ? Est-ce que vous m'aimez ? Est-ce que je vous plais ? Est-ce que vous appréciez ce que je fais avec vous ? Ben vous voyez, c'est le genre de questions que je me suis posé pendant des années en tant que jeune formateur et en tant que jeune conférencier. Et c'était vraiment des questions pour moi qui étaient vitales à cette époque-là. Je me demandais vraiment si je plaisais aux gens à qui je m'adressais. Et je dirais que je n'ai même pas de honte à avouer qu'à l'époque, c'était une préoccupation qui était centrale chez moi. C'était de plaire le plus possible aux gens à qui je m'adressais. Ou en tout cas, pour le dire autrement, c'était de déplaire le moins possible aux gens à qui je m'adressais en tant que formateur, en tant que conférencier, et puis par la suite en tant qu'auteur. Et c'était tout à fait humain de me poser cette question-là parce que ma survie financière en dépendait. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je pensais qu'effectivement, si je ne plaisais pas au public, si je n'étais pas capable de séduire mon public, eh bien, j'allais me retrouver sans argent, j'allais me retrouver en faillite, j'allais me retrouver sans ressources. Et remarquez que cette nécessité de plaire ou cette nécessité de ne pas déplaire, c'est quelque chose que nous portons tous à l'intérieur de nous. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les personnages publics, il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les musiciens, il n'y a pas que les personnes qui rendent des métiers de service qui doivent plaire ou qui doivent ne pas déplaire. Je dirais, toute personne salariée qui se cherche un boulot, elle doit plaire au recruteur, elle doit plaire au directeur des ressources humaines. Mais d'où vient cette nécessité pratiquement viscérale de plaire à quelqu'un ? Ben, je dirais que ça vient déjà de notre toute petite enfance. Lorsque nous étions petits, tout petits là, lorsque notre survie physique, la nourriture, l'eau, les soins qui nous étaient apportés dépendaient des adultes qui prenaient soin de nous, eh bien, nous avons très vite compris que si nous déplaisions à papa, maman, la nourrice, la baby-sitter, etc., eh bien, que peut-être nous allions courir le risque d'être abandonnés, et en courant le risque d'être abandonnés, nous allions mourir de faim et de soif, ou de froid, parce que nous avions déplu à nos éducateurs. Et donc finalement, nous avons gardé la trace de cet enjeu de survie. Et pour moi, lorsque j'étais jeune formateur dans les années 89, 90, 91, il y avait cet enjeu de surtout ne pas déplaire à mon public, sinon tout allait s'écrouler. De plus, parce qu'il n'y avait pas que ça comme phénomène, il y avait le phénomène aussi que j'étais on the stage, j'étais sur un j'étais sur une scène. Et quand on est sur une scène avec un micro, on a un certain pouvoir de séduction qui vient tout simplement du fait que les hommes et les femmes qui sont dans la salle vont avoir tendance, et ça aussi c'est quelque chose qui est très viscéral chez nous, vont avoir tendance à projeter sur nous l'image idéalisée du père qu'ils n'ont pas eu, de la mère qu'ils n'ont pas eu, de l'amant qu'ils n'ont pas eu, etc., etc. Si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont fait des propositions sexuelles explicites au début de ma carrière de formateur, vous allez me dire que je me vante, mais ça n'avait même rien à voir avec la personne que j'étais. Ça avait simplement à voir avec le simple fait que j'étais sur une scène dans une salle de conférence. Et dès qu'on est sur une scène, on reçoit les projections du public. Les acteurs de cinéma le savent très bien. Les chanteurs, les musiciens dans les bands le savent aussi. S'ils veulent coucher avec une fille différente tous les soirs, ça ne pose aucun problème. Il y en a des dizaines qui attendent, qui n'attendent que ça. Et ce phénomène, c'est un phénomène de projection qui n'a strictement rien à voir avec qui vous êtes. Le jour où j'ai décidé de sortir de ces jeux de séduction, parce qu'évidemment, ça a beaucoup flatté mon ego au début d'avoir autant de femmes qui me donnaient leur numéro de téléphone, qui me faisaient des propositions même pas voilées, des hommes qui me portaient au nu et qui m'encensaient de façon tout à fait indécente et inconfortable. Le jour où j'ai décidé de renoncer à plaire, le jour où j'ai décidé de sortir de ces jeux de séduction, c'est le jour où je me suis rendu compte que ces personnes à qui je n'avais pas répondu positivement par rapport à leurs attentes, ces femmes à qui j'avais refusé de coucher avec elles, ces hommes qui avaient découvert que j'avais des défauts, moi aussi en tant qu'être humain, comme n'importe quel être humain, je me suis rendu compte que ces hommes et ces femmes se sont retournés contre moi et de mes plus grands adorateurs sont devenus mes plus grands détracteurs. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que les jeux de séduction étaient des jeux de manipulation, étaient des jeux dans lesquels je n'étais jamais gagnant et des jeux où je ne pouvais que perdre un certain nombre de choses. C'est Emmanuel Ungaro, ce styliste franco-italien qui est fondateur d'une maison de haute couture, qui disait « Les êtres sont régis par des rapports de séduction ». Et lui, en tant que styliste de haute couture, savait de quoi il parlait, évidemment, parce que tous nos rapports sont des rapports de séduction, effectivement. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de regarder quelle est l'étymologie du mot « séduction ». « Séduction », ça vient du verbe « séducere ».« Ducere », c'est comme dans « conducteur ». Hein, ou adducteur, ou aqueduc, etc. Donc c'est conduire, c'est le duce en italien. Hein, c'est séducere, c'est conduire à soi, c'est conduire vers soi, c'est essayer d'attirer à soi. C'est ça un séducteur. Un séducteur, c'est quelqu'un qui veut attirer vers lui quelqu'un pour vivre quelque chose avec lui. Et ce qui est intéressant aussi, parce que j'ai été retrouvé dans mes dictionnaires de latin, l'origine du mot « plaire », et il y a deux verbes qui sont très très proches l'un de l'autre, et c'est intéressant parce que vous avez plaquerer, qui veut dire plaire justement, mais vous avez aussi placare, et placare c'est calmer, c'est apaiser, c'est amadouer, c'est adoucir. Et je sais que les latins faisaient parfois des jeux de mots, parce que quand on conjugue le verbe plaquere et le verbe placare, il y a certaines formes du verbe qui sont strictement identiques, c'est-à-dire qu'il y a uniquement dans un contexte qu'on va pouvoir savoir de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle de plaire? Est-ce qu'on parle d'amadouer, de calmer? Remarquez que, en fait, quand on veut plaire à quelqu'un, on veut en même temps essayer de le calmer. Ou quand on veut le calmer, c'est justement pour qu'il ne porte pas atteinte à notre intégrité physique. Donc, il y a quand même un lien très, très étroit entre le fait de « wow, wow, wow » de calmer les ardeurs de quelqu'un et en même temps de ne pas lui déplaire. Bien. Donc, la décision, je l'ai prise et je peux vous avouer que à partir du moment où j'ai décidé de ne plus chercher à plaire, ça ne veut pas dire pour autant que je ne plais plus. Hein, je sais que si vous êtes des dizaines de milliers à regarder ma chaîne YouTube, c'est parce que ce que je fais vous plaît. Et peut-être que moi, en tant que personne, je vous plais. Mais je vous fais remarquer quand même que ce que vous voyez, c'est juste le personnage public. C'est pas le personnage privé. C'est pas le personnage intime que je ne révélerai pas au public parce que ça, c'est mon intimité, c'est ma vie privée. Voyez? Donc, il y aura toujours une distance entre qui je suis vraiment et ce que vous percevez de moi à travers l'écran de votre ordinateur ou à travers l'écran de votre tablette ou de votre téléphone portable. Bien. Mais il y a quand même 7 raisons pour lesquelles j'ai choisi de renoncer à plaire. Et ces 7 raisons se sont transformées en 7 avantages que je vis au quotidien dans le fait de renoncer à plaire. Premier avantage, c'est que ça me permet de me recentrer. Parce que quand on cherche à plaire, eh bien, on est toujours focalisé sur la réaction de l'autre. On est toujours focalisé sur ce que l'autre pense, ce que l'autre croit ou ne croit pas, etc. C'est-à-dire qu'on va se transformer en caméléon. Mais quand on se transforme en caméléon, eh bien, on est décentré, si vous voulez. Et quand on est décentré, eh bien, on va perdre de sa puissance, on va perdre de sa force, puisqu'on essaye d'adapter notre discours aux interlocuteurs que l'on a. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça me permet de retrouver ma liberté. Mais effectivement, parce que quand j'essaye de séduire l'autre, quand j'essaye donc de le manipuler pour l'amener à moi, eh bien, je vais dépendre de sa réaction. Je vais dépendre de son bon vouloir à répondre à ma tentative de manipulation. Hein, c'est Jean de La Fontaine qui disait dans la fable du corbeau et du renard dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Parce que c'est vrai que le pauvre renard, qui est là un peu comme un malheureux à essayer de séduire le corbeau, ben, si le corbeau ne marche pas dans sa combine, qu'est-ce qui se retrouve pieds et poings liés à essayer d'obtenir ce qu'il veut? C'est le renard, c'est pas le corbeau. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai envie de vous raconter un petit sketch qui avait été créé par un Bruxellois, un vieux Bruxellois, et c'est la fable du Corbeck et du râteau. Maître Corbeck, sur son beau moquet perché, tenait dans sa small un platter case. Maître râteau, par l'odeur ralléchée, s'amène et dit: oui, 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 maître Corbeck, si le chant de ta small est aussi beau que ton plume, alors tu es le sphinx de ces bois. À ces mots dits, maître Corbeck prend son platte-case en main et dit « Imbécile, je connaissais déjà la fable. » Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas le bruxellois, ben, tant pis pour vous, mais je pense que vous avez quand même compris que dans cette version bruxelloise du corbeau et du renard, eh bien, celui qui se retrouve au gros Jean comme devant, c'est le renard, hein, maître râteau, et c'est pas le corbeau. Donc, je me suis rendu compte à quel point je retrouvais une liberté à partir du moment où je ne cherchais plus à plaire, au moment où je ne cherchais plus à séduire. Bien. Troisième avantage, c'est que ça m'a permis de retrouver une estime de moi qui était fondée sur mes propres critères, mes propres valeurs et plus les réactions de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque j'animais une conférence, lorsque j'animais un séminaire, je pouvais avoir énormément de louanges de la part du public. Moi, je sortais de scène et je n'étais pas satisfait parce que je savais que ce que j'avais fait ne correspondait pas à mes critères de qualité. Inversement, je pouvais avoir parfois des réactions négatives, des réactions de désapprobation du public qui n'avaient pas été... qui avait été choqué par certains propos que j'avais tenus ou qui n'avait pas apprécié d'être à ce point secoué par les propos ou par l'interpellation que je leur envoyais et qui donc m'envoyait des signes de reconnaissance négative. Et quand je sortais de scène, je savais que j'avais été fidèle à mes valeurs, je savais que j'avais été fidèle à mes critères de qualité et que je n'avais rien à me reprocher. Voyez, donc en fait, mon estime de moi dépend maintenant de l'auto-évaluation. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas écouter les feedbacks qui me sont envoyés et je vais me remettre en question, bien entendu. Mais mon estime de moi ne dépend pas du regard de l'autre. Mon estime de moi va dépendre de est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé? Est-ce que j'ai été fidèle aux valeurs, aux critères de qualité que je m'étais fixé avant de faire cette intervention. Voyez, ça c'est un troisième avantage que j'ai découvert en cessant de chercher à plaire. Quatrième avantage, c'est que ça diminue beaucoup le stress et le trac. Alors, j'ai compris ça le jour où je me suis souvenu de mes cours d'astronomie. Parce que vous avez le soleil et vous avez la lune. Et la différence entre le soleil et la lune, c'est que le soleil, lui, il rayonne quel que soit le nombre de planètes qui tournent autour de lui. Et à la limite, il n'y aurait même aucune planète autour de lui, et bien le soleil, il continue à rayonner. C'est-à-dire que le soleil ne se préoccupe pas de savoir si on reçoit ses rayons ou si on est dans le 36e sous-sol d'une maison. Il va continuer à faire bénéficier les planètes de ces rayons de chaleur, d'énergie, de vie. C'est ça pour moi, un être qui rayonne. Un être qui rayonne, il rayonne peu importe si on le reçoit ou on ne le reçoit pas. La Lune, par contre, c'est un astre qui brille. Voyez la différence? Et c'est vrai que très souvent, nous cherchons à briller en société. Beaucoup d'artistes que j'ai pu coacher étaient pris par des tracks absolument terrorisants. Et quand je travaillais avec eux, je me rendais compte que le track venait du fait qu'ils cherchaient à briller. Ils cherchaient à plaire. Et c'est vrai que la Lune, elle ne brille que parce qu'elle reçoit le rayon du soleil, elle reçoit la lumière du soleil. La lune ne brille pas par elle-même, ne rayonne pas par elle-même, elle ne fait que réfléchir quelque chose qui lui est envoyé de l'extérieur. Un peu comme les artistes ne font que être un pygmalion du public, et le public est le pygmalion de l'artiste, si vous voulez. C'est-à-dire que l'artiste ne fait que refléter ce que le public lui envoie. Donc quand le public est chaleureux, ben l'artiste va briller. Et quand le public n'est pas chaleureux, eh bien, l'artiste ne va pas briller. Alors que si l'artiste rayonnait, il ne se préoccuperait plus de savoir comment on reçoit ce qu'il fait. Il serait dans un rayonnement. Et à partir du moment où vous êtes dans une attitude de rayonnement, je peux vous assurer par expérience que le trac tombe quasiment à zéro. Quels que soient les enjeux dans lesquels vous êtes lorsque vous faites une intervention vis-à-vis de quelqu'un. Cinquième avantage, c'est que ça augmente votre efficacité. Il n'y a rien de pire. Il y a d'ailleurs quelqu'un, c'est un auteur anonyme qui disait « Je ne connais pas la recette du succès, mais je connais la recette de l'échec, c'est de chercher à plaire à tout le monde. » Si vous cherchez à plaire systématiquement à vos enfants en tant que parents, eh bien, vous serez tôt ou tard inefficace. Si vous cherchez à plaire à tous vos collaborateurs, si vous êtes dirigeant d'entreprise, eh bien, tôt ou tard, vous serez inefficace. Parce que vous direz « oui » à tout le monde, et vous direz oui à toutes les demandes névrotiques et à toutes les revendications qui vous sont apportées. Et puis finalement, il n'y aura plus aucune ligne directrice dans votre façon d'éduquer vos enfants. Il n'y aura plus aucune ligne directrice dans votre façon de conduire votre entreprise. Et vous allez devenir totalement inefficace. C'est-à-dire que si vous voulez être efficace, il ne faut pas chercher à plaire. Je disais toujours aux dirigeants d'entreprise que je formais, et j'ai formé des parents aussi, et je leur disais exactement la même chose, parce que pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre un dirigeant d'entreprise et un éducateur, parce qu'un dirigeant a une mission d'éducation de ses collaborateurs. Et je leur disais, vous n'êtes pas là pour être aimé par vos collaborateurs ou par vos enfants. Vous n'êtes pas là, ne cherchez pas à être aimé par vos collaborateurs ou vos enfants. Cherchez à être efficace, chercher à être juste, chercher à proposer la meilleure stratégie possible. Et si vos stratégies éducatives ou managériales sont pertinentes, peut-être qu'en retour, on va vous estimer. Mais donc l'estime que vous recevrez en retour sera la récompense et la reconnaissance du fait que vous avez été juste. Mais de grâce, arrêtez de chercher à plaire ou de chercher à ne plus déplaire à personne dans votre mission. Cinquième avantage, donc, c'est que ça rend très efficace parce que quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez un rôle à jouer, eh bien, vous prenez cette décision en fonction de vos critères et plus en fonction de est-ce que ça va lui plaire ou pas. Sixième avantage, c'est que ça accroît votre authenticité. C'est que vous n'êtes plus obligé d'embellir votre réalité. Vous pouvez vous présenter au public en disant, vous savez, moi aussi j'ai des faiblesses, moi aussi j'ai des ombres, moi aussi j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie, moi aussi je suis un personnage qui parfois est insupportable avec ses proches, avec ses collaborateurs, avec son conjoint ou sa conjointe, etc. Parce que quand vous essayez d'embellir la réalité, vous entrez dans la spirale du mensonge. Et lorsque vous voulez maintenir cette image absolument idéalisée de vous, tôt ou tard, quelqu'un va trouver la faille et quelqu'un va vous la remettre devant votre face. Quand ce n'est pas, va le balancer dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Vous voyez ? Tous les hommes politiques qui essayent de cacher le fait qu'ils ont à un moment donné fumé de la marijuana, ou les acteurs qui essayent de cacher le fait qu'ils ont fait ceci ou cela, etc. Tôt ou tard, quand vous êtes un personnage public, ça vous revient dans la figure, à la vitesse de l'éclair. Mais dans votre vie, même si vous n'avez pas une vie publique, si vous essayez d'embellir votre image, tôt ou tard, on va découvrir des défauts chez vous parce que ça fait partie de l'être humain, c'est que personne n'est parfait. Donc pourquoi vous fatiguer à mentir ? Ce sont des petits mensonges, à embellir votre réalité alors que vous auriez beaucoup plus intérêt à être dans votre authenticité. C'est vraiment comme ça que vous allez être aimé. C'est en étant authentique, pas en essayant d'embellir votre façade. Septième et dernier avantage, c'est que ça vous permet du coup de construire des relations vraies. Des relations qui sont basées sur une rencontre en vérité. Vous êtes vous et vous rencontrez l'autre et ça va être contagieux. C'est pour ça que je dis que ce sont des relations vraies. C'est que plus vous êtes authentique, plus vous êtes centré, plus vous êtes dans votre vérité, moins vous cherchez à séduire, plus vous êtes soucieux de ce qui est juste, plus l'autre, en miroir, va se mettre lui aussi à rayonner. Et ce que je peux vous dire, après toutes ces années, depuis toutes ces années où j'ai décidé à ne plus chercher à plaire, c'est que moins je cherche à plaire, plus je suis apprécié. Et ça, pour moi, c'est la véritable mesure de mon authenticité. C'est que, finalement, je ne me préoccupe plus de savoir si ce que je vais vous dire va vous plaire ou va ne pas vous plaire. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est d'être le plus proche possible de ma mission de vie, d'être le plus proche possible de ma légende personnelle, d'être le plus proche possible de mon essence. Et je sais, et c'est un pari que je fais, je sais que plus je suis proche de mon essence, plus je vais rejoindre l'essence d'autres personnes. Et je n'aurai plus à me préoccuper finalement de savoir si oui ou non je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Quatre choses à vous dire rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.